Au programme ce trimestre, l'âge nucléaire. Quand vivaient nos ancêtres sur la planète Terre, avec leurs allumettes et leurs manteaux de fourrure, leur réseau internet et leur pot de confiture.
Le 22 octobre dernier, le LAG, lieu autogéré de Liévin, a organisé une rencontre et un échange avec Stéphane Bally à propos du scénario Négawatt, alternative au choix énergétique du nucléaire. Nous y étions et nous avons rencontré Stéphane Bally, donc enseignant-chercheur en sciences pour l'ingénieur. Engagé depuis une vingtaine d'années pour la transition énergétique, il a notamment contribué à la fondation de Virage Énergie. Il est également co-auteur des scénarios énergétiques régionaux réalisés par l'association Négawatt. Une association créée en 2001 qui a pour objectif de montrer qu'un autre avenir énergétique est possible, mais surtout souhaitable. Alors, un avenir sans nucléaire, est-il possible ?
Le nucléaire, aujourd'hui, n'est pas la réponse à l'urgence climatique. Et parallèlement, ou je dirais de plus, on a des temps de construction et les reports multiples de raccordement du réacteur en construction à Flamanville, dit de réacteur EPR, qui a triplé son budget et a plus de 10 ans de retard, montre bien finalement l'inadéquation par rapport à l'urgence climatique. Il y a par ailleurs une énergie qui est extrêmement centralisée. Et donc le modèle de la transition énergétique, c'est à la fois un modèle démocratique. Ce que porte aussi Négawatt, c'est la question des coopératives énergétiques. Finalement, c'est une réappropriation par les citoyens des moyens de production énergétique. Et puis une décentralisation, c'est-à-dire que tous les territoires, de Dunkerque à Perpignan, ont des atouts, ont des potentiels aussi bien de production d'énergie que d'économie d'énergie. Et donc c'est au plus proche finalement des habitants, des consommateurs d'énergie qu'il faut agir. Et on a bien en fait là, à l'inverse avec le nucléaire, des décisions qui sont très descendantes, étatiques et qui sont en plus des moyens de production qui sont extrêmement centralisés.
Quel est le lien entre le nucléaire et la démocratie ?
Aujourd'hui, c'est plutôt en tout cas les pays dans lesquels il y a des programmes actifs de construction de centrales, on est plutôt sur des pays qui ne sont pas démocratiques ou peu démocratiques. On peut citer la Chine, on peut citer la Russie. La question de la décision, du pilotage, et c'est pour ça que une transition énergétique, c'est une transition aussi citoyenne, c'est-à-dire la réappropriation du moyen de production, ce qui n'est pas possible par le nucléaire. Et d'où ce besoin d'avoir des moyens de production qui soient au plus proche, des moyens de production qui soient renouvelables.
Il n'y a pas d'élixir de jouvence. Et donc, on va être à devoir renouveler le parc, c'est-à-dire les moyens de production d'électricité. Or, il n'y a absolument aucune raison environnementale, j'ai même peut-être dire même démocratique. Si vous allez autour de la Hague, ce que vous voyez, vous avez à peu près trois rangées de barbelés. On voit bien que la question antidémocratique du système nucléaire. Donc il y a la question démocratique, il y a la question de coût. Aujourd'hui, la maturité, la compétitivité des renouvelables font que c'est deux fois moins cher, je dis bien deux fois moins cher minimum que le nucléaire, et d'avoir un scénario sur lequel, en fait, une trajectoire qui soit compatible et à la fin où ça fonctionne. Là, quand à l'entrée de l'hiver, même s'il y a des températures qui sont même inquiétantes en ce moment, mais quand à l'entrée de l'hiver, vous avez quasiment la moitié du parc qui est à l'arrêt, j'en reviens à mon propos tout à l'heure, y aura-t-il de l'électricité à Noël, quoi.
C'est important aussi pour vous de partir des besoins des habitants ou de la population et des usages aussi pour construire les solutions face au nucléaire et face aux problèmes énergétiques.
C'est même l'entrée, la clé de voûte de l'ensemble de l'approche de Négawatt, c'est partir des besoins, des usages énergétiques et comment on y répond. Et donnant une illustration, pour un logement, c'est pas d'un moyen de chauffage dont on a besoin. C'est d'une température de confort. Et finalement, la réponse est comment on amène à cette température de confort. On a aujourd'hui des bâtiments, alors malheureusement quelques poignées de bâtiments, mais qui sont des bâtiments bioclimatiques, passifs, dans lesquels vous n'avez même pas besoin de moyens de production de chaleur. Et vous avez à l'autre extrémité du spectre des passoires énergétiques, ou pour avoir, ou tenter d'avoir d'ailleurs la même température intérieure, vous avez d'énormes radiateurs et une chaudière. Or, on voit qu'en fait, la chaudière n'est pas le besoin, c'est un moyen. Et donc, l'approche de Negawatt est toujours de repartir de l'ensemble de nos besoins essentiels, qui sont ceux de se loger, d'habiter, celui de mobilité, de se nourrir, et puis de la question des biens matériels. Toujours questionner l'ensemble de ces besoins et de savoir comment on y répond. Donc avoir ce qu'en économie on appelle aussi une approche par la demande plutôt que par l'offre.
On a beaucoup évoqué aussi tout à l'heure le collectif. Comment on peut construire la sobriété énergétique? Comment on peut construire l'avenir collectivement?
Nos comportements individuels sont la conséquence de choix collectifs. Prenons une illustration, celle de la mobilité. S'il a été décidé de construire une autoroute plutôt qu'une voie de chemin de fer, eh bien, on voit bien que la mobilité de chacun est fortement conditionnée par la décision collective qui a été prise. La sobriété, c'est soit du comportement, mais encore faut-il avoir la possibilité de pouvoir agir. Et donc, cette action, c'est bien le résultat de choix collectifs, d'actions, de politiques publiques. Donc oui, la sobriété énergétique, ça passe par mettre un pull ou une doudoune, mais ça s'inscrit dans un plan d'action beaucoup plus global.
Est-ce qu'il existe des énergies vraiment alternatives très efficaces? On pense tout le temps à l'éolien, mais est-ce qu'il y en a d'autres auxquelles on ne pense pas forcément et qui pourraient peut-être même être une solution plus efficace?
Mais la première énergie, ou l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc ce sont toutes les économies d'énergie sur lesquelles il faut agir et de façon massive. Qui est d'ailleurs inscrit dans la loi de transition énergétique, c'est d'ici 2050 réduire de moitié nos consommations énergétiques. Et ce n'est pas une lecture franco-française, puisque c'est aussi finalement les objectifs, par exemple, des gouvernements danois ou allemands. Donc ça, c'est un premier volet. Et puis après, il faut bien réfléchir pour chaque besoin énergétique, trouver le vecteur énergétique et quelque part la source d'énergie qui soit la plus adaptée, la plus judicieuse. Et donc, il y a finalement un panel à mobiliser, qui sont aussi bien de l'éolien, du solaire thermique, photovoltaïque, du bois, qui est d'ailleurs à ce jour la première source d'énergie renouvelable en France, en Europe et dans le monde. Valoriser aussi ce qu'on appelle l'énergie fatale. L'énergie fatale, c'est genre ce qu'on peut qualifier des pertes, je pense notamment des process industriels. Et bien, comment avec cette énergie, on peut chauffer, je pense notamment les logements d'à côté, comment l'énergie du data center, la chaleur du data center, eh bien, va chauffer les logements qui sont à côté. Voilà, en fait, les enjeux. Toute cette palette de solutions, il n'y a pas une solution miracle, mais toujours en partant des besoins, en ayant une approche par les économies d'énergie, la maîtrise de la demande, et puis en trouvant ou en mobilisant le vecteur énergétique le plus efficace.
Vous avez évoqué tout à l'heure les transports, en disant que c'était justement le premier émetteur de CO2. Quel est le lien entre le nucléaire et la mobilité?
Aujourd'hui, les transports sont le premier poste d'émission de CO2 en France, puisque très majoritairement, nos déplacements reposent sur l'usage de la voiture, dans une moindre mesure du bus, de l'avion, si on prend pour le transport des marchandises, des camions et des bateaux. Le lien avec le nucléaire sur les transports, c'est, et ce que porte Negawatt, c'est pas de changer finalement ce qu'il y a sous le capot de la voiture et de passer d'un moteur thermique à une batterie, c'est de questionner déjà l'aménagement du territoire, les alternatives, et on a aujourd'hui, la moitié des déplacements réalisés en voiture qui font moins de 3 km. On voit qu'avec un vélo, c'est des choses qui sont largement faisables. 10% des déplacements, par exemple, dans les métropoles, font moins d'un kilomètre. Là, c'est même plus un vélo, c'est juste une paire de chaussures. Et donc, toujours avoir la solution qui corresponde aux besoins et quelque part, en dernier recours, avoir ou mobiliser la voiture individuelle et si possible qu'elle soit en autopartage, en covoiturage. Et tous les scénarios montrent évidemment qu'on peut passer cette part-là, cette part résiduelle-là en voiture électrique, mais qui sont des véhicules qui sont adaptés, qui ne sont pas des tanks qui font 2,5 tonnes, mais bien des véhicules qui sont adaptés aux besoins de chacun, chacune.
La voiture électrique, du coup, c'est peut-être pas la solution idéale, sur le long terme en tout cas.
Mais les embouteillages aujourd'hui de voitures thermiques montrent bien finalement, enfin, c'est la congestion actuelle, voiture thermique, le modèle demain où on aurait des congestions, des embouteillages de voitures électriques, on voit qu'au finalement, on n'aurait absolument rien changé. Il ne s'agit pas uniquement de s'intéresser à la motorisation, mais bien finalement à la question de mobilité. Comment on y répond? Comment on fait du covoiturage? Aujourd'hui, en moyenne, il y a 1,1 personne par voiture. Comment on augmente ça? Il y a 5 places par véhicule. Et aujourd'hui, les embouteillages de voitures thermiques, demain, des embouteillages de voitures électriques et après-demain, des embouteillages de voitures électriques et autonomes, on voit bien qu'on reste dans le même système, dans la même organisation.
Les 8 milliards ou 9 milliards d'euros là, de subvention au carburant avec les fameux 30 centimes, avec ça, on faisait 150, de mémoire, c'était 150 000 kilomètres de pistes cyclables. C'est un choix.
C'est un choix.
Et le, ça, je sais. Et la, alors, on surprend la dimension de précarité ou l'approche sociale, plutôt prompte à d'avoir de chèques énergie qui ne soient pas un chèque miséreux de 100 balles, mais de choses qui soient à la hauteur. Sauf que là, les 30 centimes d'abattement fiscal, eh bien, globalement, les études qui ont montré, les 10% les plus riches, on a bénéficié deux fois plus que les 10% les plus pauvres.
Les aides qui ont été accordées ces dernières années ont toujours favorisé les gens qui avaient le plus de revenus.
Une dernière question. Vous avez dit pendant l'échange qu'il existe une dimension sociale au nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, nous en dire un peu plus sur ça?
La précarité énergétique est un véritable enjeu. Enfin, est un enjeu qui montre bien finalement que le système actuel est quand même assez peu défendable. C'est une impasse sur une dimension sociale avec cette précarité énergétique. C'est aussi une impasse sur la question sanitaire, avec la question de la pollution de l'air liée à la combustion des fossiles. Et donc, les intérêts de passer à s'activer sur une transition énergétique, c'est bien de permettre de résoudre tout ou partie de ces dimensions. Et donc, aujourd'hui, on a nombre de ménages chauffés à l'électricité, avec des convecteurs électriques qu'on peut qualifier finalement de radiateurs grippins et qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire que globalement consacrent plus de 10% de leurs revenus à payer leur facture d'énergie de leur logement. Et donc ce qu'il faut, et reprenons finalement le triptyque négawatt, c'est modérer autant que possible la température au sein des logements, mais dans des situations de ménage, finalement, on est sur une précarité qui est subie, on n'est pas sur une sobriété qui est choisie, mais une précarité qui est subie. Et donc des logements qui soient bien isolés, et avec des moyens de chauffage qui soient adaptés, qui soient performants.
Merci beaucoup.
Merci.
Il roulait en bagnole et les bagnoles au super. Mais ça manquait de pétrole à part dans l'atmosphère. Au bord de la faillite, ils s'étripèrent entre eux. C'était sans doute la suite de la guerre du feu.
Nous étions avec Stéphane Bally à propos du scénario Négawatt, suite à l'échange organisé par le LAG, lieu autogéré de Liévin, concernant un avenir possible sans nucléaire. Nous avons également rencontré un participant.
Je m'appelle Thierry Tempé, je suis un ancien journaliste et très préoccupé par le réchauffement climatique. Parce que j'ai vu l'évolution, alors je suis de cette génération qui a vécu dans les années 80 où on nous a fait croire que le bonheur c'était de consommer, ce que j'ai fait malheureusement comme tout un chacun de ma génération. Et puis à l'arrivée de mes enfants, je me suis posé beaucoup de questions sur notre mode de vie et notre mode de consommation. Et je me dis qu'on va dans le mur et on constate, alors quand on parle de réchauffement climatique, on en parle toujours au futur, mais j'ai eu la chance de voyager et de voir que le réchauffement climatique n'est pas un sujet du futur, mais bien un sujet actuel.
Du coup, c'est pour ça que c'est important pour toi aujourd'hui d'être ici et d'échanger sur la thématique des énergies.
Oui, c'est important parce qu'on nous fait croire encore une fois que le nucléaire est la solution d'avenir, du présent et d'avenir. Or, c'est faux. Le nucléaire a des conséquences sur notre santé, sur l'environnement, aussi un impact géopolitique. On est capable de négocier avec des pays qui ne sont pas des démocraties. Il faut savoir que le nucléaire, si on parle toujours du Niger et de ses filières exploitées par Areva, mais qui aujourd'hui a un autre nom dont je ne me souviens plus, il faut savoir qu'une partie du nucléaire, de l'énergie nucléaire, vient du Kazakhstan, qui est affilié à la Russie. Donc quand on dit bah, on va boycotter le gaz russe, c'est très bien, mais boycotter aussi le nucléaire russe sera aussi bien. Mais là, c'est plus un débat géopolitique. Moi, j'appelle à une décroissance. Habituellement, j'emploie le terme déconsommation, parce que le mot décroissance fait peur et aux politiques et aux économistes. Mais moi, j'appelle à une déconsommation énergétique, où je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'autant de matériel électrique dans une maison? On parle forcément du chauffage, ce qui était le sujet quasiment principal de cette journée, mais on oublie aussi de dire qu'aujourd'hui, pour couper un steak, on prend un couteau électrique. Pour se faire chauffer un café, on a une cafetière électrique. On se le fait réchauffer dans un micro-ondes. Tout est fait pour qu'on consomme de l'énergie électrique, enfin de l'électricité. Et donc, si on pouvait ne serait-ce que réduire, disons, de 40%, ce qui est l'équivalent de notre consommation surplus de 1990 à aujourd'hui, on consomme 40% d'électricité par rapport aux années 90. Et pourquoi? Parce qu'on a vu l'arrivée des téléphones portables, des ordinateurs individuels. Aujourd'hui, il n'est pas rare dans une famille moyenne, je ne parle pas des familles précaires, mais dans une famille moyenne, il n'est pas rare de voir deux, voire trois télévisions dans un foyer. Il n'est pas rare de voir des gens qui aujourd'hui ont trois ou quatre téléphones par foyer. Il n'est pas rare non plus d'avoir des gadgets qui sont électriques. On va dans le mur parce qu'on surconsomme.
Quelle solution tu aimerais voir mise en place en France ou même plus précisément ici sur le territoire des Hauts-de-France?
Alors déjà sur les Hauts-de-France, on a une difficulté, c'est qu'on fait passer l'emploi avant tout. On a connu ça il y a 20 ans avec le scandale de Metal Europe. Et il est normal qu'on crée de l'emploi. Mais c'est au détriment de tout le reste. Aujourd'hui, quand on parle de la centrale nucléaire de Dunkerque, par exemple, de Gravelines, le premier argument, c'est de dire « oui, ça crée de l'emploi ». Mais dans quelles conditions? Quel est le danger pour la population? Quel est le danger pour les salariés? J'ai, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, tant mieux pour eux, s'ils ont de l'emploi, mais j'ai une partie de ma famille qui travaille en centrale nucléaire à Penly et à Paluel. Donc ils ont fait leur carrière, mais j'ai un beau-frère qui a 64 ans et qui a des problèmes de thyroïde parce qu'il a été employé dans une centrale nucléaire pendant plus de 30 ans. Quoi. Et j'aimerais qu'on trouve des alternatives à l'énergie nucléaire. Et elles existent, on a d'autres pays qui sont des exemples concrets. Moi je préconise l'énergie photovoltaïque. On fait une erreur, c'est toujours dire l'énergie solaire. Or, cette énergie, elle n'est pas solaire, c'est pas le soleil, c'est la lumière qui fournit l'énergie. Et souvent, on nous dit, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas assez de soleil. Ce qui est faux, on l'a bien vu cet été, ce qui est faux. Et le pays qui consomme le plus d'énergie photovoltaïque, c'est le Canada. Il n'y a pas plus de soleil au Canada ou au Danemark que chez nous. On fait la passe en ayant cette idée qu'il n'y a pas assez de soleil dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui est entièrement faux.
Cette année, le nucléaire a été classé comme une énergie verte. Je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Est-ce que tu trouves que ça a du sens ou pas du tout?
Encore une fois, on parle d'énergie verte parce que c'est décarboné. C'est très bien, sauf que pour construire une centrale nucléaire, il faut du béton. Et donc là, il y a du carbone. La matière première, l'uranium, le plutonium, on n'en trouve pas. Je pense notamment aux deux centrales nucléaires de Normandie, Paluel et Penly, on trouve pas de l'uranium dans les carrières de Rouen, donc elles viennent du Niger, du Kazakhstan, et donc elles viennent pas à pied, cette énergie, elle vient pas en vélo, elle vient par camion ou par avion, c'est carboné. C'est complètement ridicule de croire que l'énergie nucléaire est une énergie non carbonée.
Est-ce que tu es optimiste quant à l'avenir ?
Je suis optimiste parfois par conviction, parce que j'ai aussi un petit fils et que je me dois de me garder cet optimisme. D'autant que ça fait plusieurs années que je milite pour ça et que je ne peux pas aujourd'hui baisser les bras. Je suis optimiste quand je vois des réunions comme aujourd'hui où on a des gens qui viennent et qui ont envie de se battre et ont envie d'informer, de militer. Mais je suis pessimiste quant aux décisions politiques, quoi. Quand on voit Emmanuel Macron dire qu'il veut 6 EPR, Xavier Bertrand qui était candidat au présidentiel, qui lui aussi voulait 6 EPR. Fabien Roussel, leader du Parti communiste, qui était candidat, qui lui en voulait 12. Oui, oui, je suis complètement pessimiste face à ces décisions politiques, quoi. Quand on sait que Jean Covici est un militant du pro-nucléaire, il va dans le mur, mais tout le monde en fait sa référence, quoi. Face aux politiques de gauche comme de droite, oui, je suis pessimiste. Mais je me dois de me garder mon optimisme.
On avait encore du poil aux pattes quand on a tout fait sauter.
Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais ?
C'était Thierry Tompé à propos d'un avenir possible sans nucléaire, suite à l'échange et à la présentation du scénario Négawatt par Stéphane Bally, organisé par le LAG, lieu autogéré de Liévin. Si vous souhaitez plus d'informations sur le scénario Négawatt, vous pouvez consulter leur site internet négawatt.org.